Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Schiste 94.3. Mon nom est David Olivier. Je serai votre animateur ce soir et je suis très content d'être avec vous puisqu'il s'agit du deuxième épisode de notre série thématique consacrée au métier d'historien, une série amorcée il y a quelques semaines déjà intitulée « L'historien, l'historienne dans l'espace public ». C'est un titre qui sied particulièrement bien à notre invité de ce soir. En effet, la personne qui nous fait l'honneur de sa présence est un historien qui accorde une grande importance au rôle civique de l'histoire et qui s'engage fréquemment sur la place publique pour mettre à profit ses compétences en tant qu'historien dans la compréhension de l'actualité. C'est donc une chance de pouvoir l'accueillir en studio, d'autant plus, je le précise, car il nous arrive de la France où il vit et pratique son métier. Il est donc seulement de passage au Québec et dans le cadre donc du colloque automnal de la Fédération Histoire Québec, intitulé « La participation citoyenne en histoire et patrimoine, évolution, apport, enjeux et devenir ». Il y prononçait le 12 octobre dernier la conférence inaugurale intitulée « Comment conjuguer l'histoire citoyenne et l'histoire savante ». Il est à mes côtés, je vous le présente. Il s'agit de l'historien Gérard Noiriel. Bonsoir, M. Noiriel.
Bonsoir.
Alors, je le répète, c'est une chance et j'ajouterais un bonheur de vous accueillir dans nos humbles studios ici, sur le campus de l'Université Laval. On vous a littéralement attrapé au passage. Je remercie d'ailleurs Jean-Louis Vallée et Alain Roy qui nous ont mis en contact. Vous avez rapidement accepté notre invitation. Est-ce que c'était important pour vous? Pourquoi avoir accepté de vous prêter à cet exercice sur les ondes d'une radio étudiante?
Ben, écoutez, je pense que c'est important de, oui, de transmettre. Hein. Je suis arrivé à, je dirais, à la dernière ligne droite de ma carrière et donc le sens que j'ai pu donner à mon engagement intellectuel et civique, je souhaite le transmettre maintenant aux générations qui prennent déjà notre succession.
Ben, c'est un réel plaisir de vous recevoir. On aura, je crois, une belle discussion. Gérard Noiriel, vous êtes historien spécialisé dans l'histoire de l'immigration et des classes populaires ainsi que de l'État-nation. Vous pratiquez ce que l'on appelle la socio-histoire, nous y reviendrons. Vous êtes rattaché depuis 1994 à l'École des hautes études en sciences sociales. Parmi vos autres réalisations, je note que vous êtes cofondateur de la revue Genèse. Vous êtes également fondateur de la collection Socio-histoire aux éditions Bellin. Vous avez été membre associé de l'Institute for Advanced Study de l'Université Princeton depuis 1996. Vous avez également été président du comité d'aide aux intellectuels réfugiés pendant plus de 10 ans à partir de 1992. Et je note également en 2005 votre contribution à la mise sur pied du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. C'était en réaction au vote de la loi du 23 février 2005, dont l'article 4 insistait, et je cite, sur les effets positifs de la colonisation. Vous avez également écrit et collaboré à de nombreux ouvrages. J'en note quelques-uns. Long oui, Immigrés et prolétaires. C'est un peu le livre fondateur de la socio-histoire. C'est tiré d'ailleurs de votre thèse de doctorat soutenue en 82. Vous avez également écrit Le creuset français, histoire de l'immigration et plus récemment, Une histoire populaire de la France en 2018, Les gilets jaunes à la lumière de l'histoire en 2019, Race et sciences sociales avec votre collègue Stéphane Beau en 2021 et tout récemment, en 2023, Le pourquoi du comment mieux vivre grâce à l'histoire. C'est un recueil de certaines de vos chroniques présentées quotidiennement sur les ondes de France Culture dans l'émission Le pourquoi du comment. Vous êtes donc habitué de la radio. On pourra en reparler également. Vous êtes donc un historien doublé, je dirais, d'un intellectuel public et le premier détermine sans doute l'engagement du second. Ma première question va comme suit. D'où vous vient votre intérêt pour l'histoire? Quel lien y a-t-il entre votre expérience vécue et votre vocation d'historien?
Alors, tout d'abord, je voulais vous féliciter vraiment pour la préparation de votre émission, puisque vous m'avez adressé les questions avant. Et effectivement, j'ai vu que vous aviez fait un gros travail sur mes propres travaux pour cerner les différents enjeux que j'ai dû affronter, que j'ai essayé de solutionner au cours de ma carrière. Et le premier, évidemment, c'est l'engagement pour l'histoire. Disons que moi, j'étais pas socialement prédéterminé à devenir un intellectuel ou un universitaire, puisque je viens d'un milieu populaire où, disons, en plus dans ma génération, hein, où la limite, c'était en gros, c'était même pas le bac, c'était ce qu'on appelle le certificat d'études, hein, ou le brevet, hein, à 14-15 ans par le fait. Donc, c'est seulement par la suite que, suite à mon itinéraire, enfin, je ne peux pas entrer dans les détails assez difficiles, assez heurtés, assez problématiques, que je suis arrivé à l'université avec une vision de l'histoire qui était plutôt négative, parce que l'histoire telle qu'on l'enseignait à cette époque-là, c'était des petits résumés par cœur, des choses comme ça. Bon, une histoire des grands hommes ou même pas des grandes femmes à l'époque, des grands hommes et des grands événements, etc. Donc, j'étais pas du tout attiré par cette discipline, mais ma chance, ça a été de tomber sur un prof qui très tôt m'a mis le pied à l'étrier au niveau de la recherche. Je crois que c'était en deuxième ou troisième année, ils avaient fait une petite recherche, et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'était vraiment le fait que l'histoire, ça puisse être ce type d'angle de travail, de réflexion, de contact avec les sources, avec les archives, c'est-à-dire avec des expériences vécues du passé, etc. Ouais. Tout ça m'a vraiment passionné, et j'ai appris à ce moment-là que on pouvait en faire son métier. Donc là, ça a été une conversion, vous voyez, au sens sociologique du terme. Et donc, même les profs ne me reconnaissaient pas, parce que j'étais un étudiant dilettante, politisé aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais qui fréquentait plus les booms du mercredi soir que les séminaires pointus. Et après, donc, ça a été vraiment cette détermination où j'ai fait tout ce qu'il fallait, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, comme on le savait, pour pouvoir entrer comme universitaire par le fait. Et voilà. Puis après, bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans ma carrière. Mais disons, il y avait cette énergie qui était liée à cette découverte que j'ai faite au début de mes études.
Mmh. Et là, je peux difficilement m'empêcher de poser la question, mais est-ce que c'est vrai que votre... La découverte de votre vocation d'historien a comme un lien avec la radio?
Alors oui, alors ça c'est effectivement parce que, en fait, au départ, comme beaucoup d'universitaires en France, j'ai commencé par plusieurs années comme enseignant dans le secondaire. Hein. Le temps que je faisais ma thèse, j'étais dans le secondaire et donc j'ai été coopérant, j'avais choisi un pays, République populaire du Congo, donc comme coopérant, j'ai fait mon service militaire comme coopérant pour essayer d'aider, c'est les pays d'Afrique. Enfin, bon. Et puis en revenant, mon premier poste a été en Lorraine, à Longwy, donc c'est le nord de la Lorraine qui a été une principale région en France pour la production de l'acier et du fer. Et donc quand je suis arrivé, c'était au moment où toutes ces usines étaient en train de fermer. J'ai été de plein fouet confronté à la désindustrialisation. Ouais. Et donc parmi mes élèves, j'en avais les trois quarts, c'était des enfants de sidérurgistes qui étaient en train de perdre leur boulot. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment déterminant. J'étais déjà engagé politiquement auparavant, mais là, il y avait un sens concret, direct, avec une classe ouvrière qui ressemblait vraiment à l'idéal de ce qu'on pouvait imaginer du prolétariat.
Ouais.
D'être très soudé, très engagé, une fraternité très grande, et j'étais tout de suite intégré dans ce monde-là. Et donc, effectivement, j'ai participé à la lutte, comme pratiquement toute la population. Et il y a eu ça à ce moment-là où la CGT, donc principal syndicat de l'époque, a lancé une grande campagne pour les radios libres.
Ouais.
Hein, parce qu'à l'époque, c'était interdit. Hein, cette radio qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier, animée par un journaliste formidable, Marcel Triat, malheureusement décédé il y a quelques années, il m'a sollicité. Je faisais les émissions d'histoire à cette radio. Donc, je dis souvent, j'ai commencé plus comme journaliste que comme historien, en essayant de combiner les deux. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous voyez, longtemps après, je refais de la radio.
Absolument.
Puisque je fais cette émission à France Culture.
Oui, oui. Mm. Et vous êtes ici aujourd'hui.
Je suis ici avec vous.
Seul notre passage.
Oui.
vous êtes maintenant historien. Mais qu'est-ce qui caractérise ce métier-là exactement? Qu'est-ce que c'est qu'un historien ou une historienne, selon vous?
Alors, c'est justement un des thèmes que j'ai abordé dans ma conférence à Montréal. C'est que l'un des gros problèmes, à la fois l'un des, je dirais, des avantages, mais aussi un inconvénient de l'historien, c'est que le mot histoire est polysémique.
Ouais.
Je veux dire, tout le monde peut se dire historien. Je veux dire, aujourd'hui en France, souvent quand on va aux archives, les trois quarts des places sont occupées par des gens qui font leur arbre généalogique.
Oui, oui, oui.
Donc ce côté identitaire, finalement, parce que l'histoire comme mémoire, c'est une dimension de l'identité des personnes et des groupes. À la fois, c'est ce qui explique la popularité de l'histoire, mais aussi la difficulté qu'on rencontre quand on veut en faire son métier.
Ouais.
Parce qu'on est obligé d'entrer dans une démarche critique.
Mm-hmm.
Parce que les usages de l'histoire, Poutine, il justifie l'annexion de l'Ukraine au nom de l'histoire.
Oui, oui, oui.
Vous voyez, ça a servi dans le passé des tas de causes extrêmement répréhensibles. Mm-hmm. Donc, l'une des dimensions civiques, la défense de la vérité, pour moi, c'est extrêmement important. Mm. J'en fais une dimension civique. Mais le métier, au sens sociologique du terme, ouais. d'abord, c'est un universitaire, il est enseignant-chercheur. Il y a les deux dimensions.
Ouais.
Et très souvent, la dimension de l'enseignement l'emporte sur la dimension de la recherche. Mmh. Ensuite, vous avez beaucoup de, je vois chez mes collègues, beaucoup de gens qui sont happés par des tâches administratives.
Ouais.
Ou alors qui vont, je dirais, être journaliste, écrivain, faire des bouquins de synthèse, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Qui peuvent être éloignés des fondements de la recherche historique, d'analyse critique des sources, etc.
Mm-hmm.
Donc moi, c'est ce que j'ai expliqué aussi, je ne distingue pas forcément des métiers, parce que ça dépend de la façon dont on le fait, mais plutôt par des pratiques.
Ah.
Et j'ai rencontré, parce que dès le départ, j'ai été engagé dans des associations d'histoire, on appelle ça histoire citoyenne,
ouais, ouais.
au Québec. À Longueuil, d'ailleurs, j'ai créé une association pour la
oui.
défense du patrimoine.
Oui,
on pourra en dire un mot tout à l'heure. Mais donc, j'ai été aussi engagé, vous voyez, avant même d'être universitaire, mm-hmm. dans une pratique citoyenne de l'histoire. Mm-hmm. Et souvent, c'est dans ces associations-là qu'on fait le boulot le plus scientifique.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc, c'est, vous voyez. Alors que, moi, j'ai constaté après, chez les universitaires, surtout, je dirais, ceux qui se prennent pour plus, vous voyez... vous voyez ce que je veux dire,
oui.
quoi, qui se croient sortis de la cuisse de Chipotle,
oui, oui.
on dit, ils vont avoir un mépris pour mm-hmm. ces formes d'histoire.
Exact.
Alors que moi, non. Moi, j'ai toujours conçu la nécessité, surtout que je travaille sur des sujets qui touchent à l'histoire contemporaine, l'histoire des migrations, l'histoire du monde ouvrier. J'avais besoin aussi du savoir que tous ces gens-là m'apportaient.
Mm.
Donc, il y a une sorte de complémentarité, mais il peut y avoir aussi des moments de critique. C'est une dialectique. C'est ce mot dialectique qui me revient, c'est-à-dire la lutte des contraires qui est productive mm. d'un savoir qu'il faut défendre aujourd'hui.
Il y a donc des historiens professionnels, il y a, pourrait-on dire, des historiens amateurs ou citoyens. Cette distinction, vous la faites, mais on comprend bien que vous donnez quand même une importance à cette pratique, disons, amateur, puisqu'elle est quand même, elle soulève un certain nombre de questionnements qui sont pertinents, qui viennent peut-être du bas, pour permettre à ceux qui ont les compétences venant du haut, peut-être, de les exploiter à leur meilleur potentiel. Si vous le voulez bien, commençons donc par aborder la conception que vous avez de l'histoire savante plus en profondeur. Mais juste avant, je propose une petite transition musicale qui vous rappellera peut-être votre passage à Longueuil auprès des ouvriers de la sidérurgie Lorraine. C'est une sorte de complainte en même temps qu'un chant révolutionnaire. Là. C'est un extrait du documentaire Lorraine, cœur d'acier, une radio dans la ville, réalisé en 1980.
J'ai froid, j'ai peur, et c'est l'angoisse du temps. Passé du révolu, tant du chômage, de la poisse, le temps des usines perdues. Faut-il accepter la violence? Des maîtres de l'économie, faut-il assumer l'insolence de ceux qui mènent le pays?
Nous sommes de retour à 3600 secondes d'histoire avec notre invité Gérard Noiriel. Gérard Noiriel, vous avez développé une approche bien particulière de la science historique, que vous appelez la socio-histoire. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont les particularités de cette approche?
Oui, en fait, la socio-histoire, c'est un domaine de l'histoire qui est fortement lié à la sociologie.
Mm-hmm.
Comme on peut parler de biochimie, si vous voulez,
oui,
vous voyez,
oui.
biologie et chimie. Donc moi, effectivement, à un moment donné, Assez tôt d'ailleurs, au moment où je faisais ma thèse sur l'ONUI, pendant ces grèves, etc., j'ai ressenti le besoin de me tourner vers la sociologie. Et notamment vers un sociologue, il faut bien le dire, parce que la sociologie c'est aussi divers que l'histoire,
oui.
C'est Pierre Bourdieu.
Oui.
Donc, parce que Pierre Bourdieu, en lisant les ouvrages de Pierre Bourdieu, Questions de sociologie notamment et la distinction, je retrouvais des préoccupations que j'avais en moi, mais que je n'avais pas théorisé ou qui était implicite, qui était dans mon expérience vécue. Mm-hmm. Et l'une des dimensions essentielles, c'était justement la question des porte-paroles, c'est-à-dire qui parle à la place des autres.
Oui.
Ça m'avait frappé. J'avais, dès mon enfance, été confronté à des questions de ce type-là. Mais là, je l'avais perçu aussi pendant les grandes grèves de l'ONUI, 79-80, puisque c'était une région qui était largement dominée par le Parti communiste.
Mm-hmm.
Mais j'ai, dans mon premier livre, d'ailleurs, qui est un livre militant, qui s'appelle « Vivre et lutter à l'ONUI », que j'ai écrit avec un travailleur immigré d'origine marocaine qui était lui-même militant à la CGT et qui voyait un peu les contradictions, c'était que, voilà, il fallait faire une analyse critique aussi du rôle du PC, qui se comportait comme un porte-parole de la lutte. Et on voyait bien le décalage entre ce qui se passait à la base, dans le mouvement social de cette lutte extraordinaire qui a duré 6 mois et tout, et puis la façon dont les politiques, quels qu'ils soient, d'ailleurs je parle du Parti communiste parce qu'il était hégémonique, mais les autres partis c'était pareil, même les syndicats, toutes les organisations étaient en crise avec leur base. Et donc, c'est ce qui m'a amené à me dire, mais finalement, qui parle, qui a le droit de dire, je parle au nom de la classe ouvrière, ou, mais ça peut être, vous parliez de mon livre « Race et sciences sociales », c'est la question que je pose aussi, par rapport aux associations antiracistes. Qui parle au nom d'eux. C'est toujours une question qu'on doit se poser.
Mm-hmm.
Et donc ça a été assez déterminant. Et donc je me suis tourné vers la sociologie. J'ai pris contact avec Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu m'a beaucoup appris et j'ai fait une partie au départ de mes recherches en lien avec lui. Et c'est ce qui m'a amené donc effectivement à promouvoir avec quelques collègues qui se retrouvaient dans la revue Genèse notamment. Notamment Michel Auferlé, professeur de sciences politiques, la socio-histoire comme domaine autonome de la recherche.
Et en quoi ça consiste exactement, comparativement par exemple à des approches comme la sociologie historique ou l'histoire sociale?
Oui, alors il faut toujours bien considérer qu'il y a aussi des effets de label. C'est-à-dire que c'est un label qu'on lançait pour nous différencier, en tout cas pour moi, de l'ancienne histoire sociale telle qu'elle était pratiquée par les annales. Vous voyez, histoire économique et sociale, comme on disait. Quelle est la spécificité? Eh bien, c'est une approche qui, à part Bourdieu, je citerai volontiers Norbert Elias, par exemple, quand Norbert Elias a écrit ce livre sur la société des individus. Donc, le fondement de la sociologie, c'est déconstruire les entités collectives pour retrouver les individus et les liens qui tissent entre eux. Ça, c'est une règle de base, je l'ai écrit dans mon petit livre sur la socio-histoire, qui caractérise finalement la sociologie et qui en fait sa difficulté. Parce qu'on est obligé de raisonner aussi avec des concepts.
Ouais.
Moi-même, je vous parle à cette heure-ci avec des concepts, donc des formes générales.
Exact.
Quand on dit l'État, quand on
vous
voyez. Donc, on ne peut pas être 100% 24 heures sur 24 socio-historien. Mais la recherche doit toujours se donner comme objectif la déconstruction. Ce qui me met parfois en difficulté avec les gens qui sont défenseurs des mémoires collectives, de l'analyse sur les entrepreneurs de mémoire, etc.
Mm-hmm.
Et donc, il y a là, je trouve, une démarche extrêmement critique, puisque ça a été l'apport de Bourdieu, puisqu'elle va déplacer le schéma marxiste de la lutte des classes, qui était surtout économique, vers les formes culturelles, symboliques, la violence que Bourdieu appelle la violence symbolique.
Et ça
m'a énormément aidé après, quand j'ai développé mes recherches sur l'histoire de l'immigration, sur l'immigration, pour montrer à la fois comment les formes d'imposition de problématiques, comment l'affaire du voile islamique, etc.
Oui.
Vous avez des formes de violence symbolique tout à fait typiques. Et puis après, dans les ripostes, les réponses qui sont apportées par les groupes qui sont stigmatisés, parfois, ce que Bourdieu avait montré, ils reprennent à leur compte le langage ou les catégories des dominants.
Mm-hmm.
Et donc, ils s'enferment dans des pièges. Enfin, c'est tout ça que j'ai analysé dans mes recherches en leur donnant une dimension historique.
Mm-hmm. Et vous avez toujours entretenu, on le comprend, un souci donc que votre science soit utile aux autres. Comment cette socio-histoire vous permet-elle de concilier ce désir de vérité typique de l'historien, mais également ce souci d'utilité?
Ben, disons que ce souci d'utilité, ce qu'on appelle parfois la fonction sociale ou la fonction civique de l'histoire, ouais. Je l'ai expérimenté d'abord par la facette mémoire, puisque, donc quand on a créé cette association, c'est une association de défense du patrimoine, de sauver de l'oubli toute cette histoire qui était en train de disparaître à une vitesse grand V. Donc, on, dans notre association, il y avait des ouvriers, des employés, des femmes de sidérurgistes, comme on disait, etc. Et on a fait un énorme travail de préservation, notamment recueil d'histoires de vie. Ça a été très important. Ça m'a beaucoup servi, d'ailleurs, pour ma thèse.
Hein.
Là, c'est une dimension pour moi. C'est-à-dire, j'apportais un peu les connaissances que j'avais acquises dans ma formation d'historien, sur la critique des sources, sur le recueil de témoignages, sur un certain nombre de choses assez simples que les gens ont très vite comprises. Et aussi, le souci critique, c'est-à-dire, attention, recueil de mémoire, c'est pas nous contre eux.
Oui, oui.
Parce que c'est le problème aussi identitaire qui se posait dès ce moment-là. Donc, il y a eu tout ça, toute une série de choses. Ça, c'était la première dimension. Et puis après, dans ce qui concerne la fonction civique du métier de l'histoire, eh bien, ça tient chez moi à une définition de la science historique qui conjugue à la fois, évidemment, la recherche sur archives, mais aussi la problématisation, le questionnement. Ça, je le dois à Marc Bloch, parce que parmi mes références essentielles, il y a vraiment Marc Bloch, c'est tout à fait fondamental. C'est ce qu'il appelait l'histoire-problème. Et donc, Marc Bloch, dans « Métier d'historien », il dit, il critique la manie du jugement. C'est-à-dire, quand l'histoire se met à juger les gentils, les méchants, et on est envahi par ça aujourd'hui, il faut bien le voir. On n'est plus dans la science historique. La science historique, elle a pour but d'expliquer et de comprendre.
Voilà.
Et donc, il faut problématiser. Quel est le problème que je veux résoudre? Ce problème, il ne peut pas être le problème du journaliste ou du politicien.
Non.
Et moi, constamment, depuis plus de 30 ans, je suis confronté à ça. Comme je suis considéré comme un spécialiste de la question d'immigration, je vous jure qu'il ne se passe pas une semaine, parfois une journée, sans qu'un journaliste me contacte pour me dire « qu'est-ce que vous pensez du problème de l'immigration ?» Et ça veut dire la dernière phase de Sarkozy, de Valls, de machin, etc. etc. Et j'ai vu l'évolution de cela. Avec l'envahissement des médias, on a de plus en plus de mal à préserver notre autonomie. Alors, moi j'ai beaucoup de collègues qui disent, je ne vais pas le dire vulgairement, mais je ne veux plus en entendre parler. Je fais mon boulot dans mon coin et puis les médias et machin. Mais moi, je ne peux pas, puisque je veux quand même être utile. Oui. Je veux quand même que mon savoir puisse être transmis à des gens qui liront pas mes bouquins. Donc, je vous dis, on parlera peut-être tout à l'heure de ce que j'ai créé, là, une association d'éducation populaire, où on fait du théâtre. Je fais du théâtre, etc., pour essayer de trouver d'autres moyens de transmettre. Mais voilà, la finalité, c'est que je voudrais transmettre aux gens, notamment ceux qui n'ont pas la chance d'appartenir à la bourgeoisie intellectuelle, etc., la conviction que j'ai eue, moi, et ce qui m'a permis aussi de m'en sortir socialement, de ce goût pour l'histoire, de ce goût pour la connaissance, de cette volonté aussi d'émancipation par le savoir. Parce que la fonction civique de l'histoire, elle vaut pour soi-même aussi. Moi, je suis un fort... Et ça, je rejoins encore Bourdieu là-dessus, ce qu'il appelait l'auto-analyse, c'est-à-dire la capacité d'utiliser les outils qu'on utilise pour critiquer les autres, de se les appliquer à soi-même. Ça, c'est une dimension qui permet aussi de s'émanciper soi-même des formes de contraintes qui pèsent ou qui ont pesé sur nous. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, c'est aussi à usage, j'allais dire, personnel, cette fonction civique.
Vous avez d'ailleurs une formule intéressante pour nommer ce processus, disons, d'auto-réflexion. C'est penser avec, penser contre. Les auteurs que vous mobilisez, vous ne les prenez pas dans leur intégralité. Et ce que vous y puisez, ben, vous le confrontez à vos propres perceptions et aux leurs par la suite également.
Voilà, c'est ça. C'est le titre d'un livre où j'ai effectivement rassemblé un certain nombre de contributions autour des auteurs qui m'avaient marqué pour montrer à chaque fois que moi, je n'étais pas l'affilié d'un groupe, parce que c'est beau, ça fonctionne comme ça beaucoup. Peut-être moins aujourd'hui que dans le passé, mais auparavant, il y avait quand même ces gourous intellectuels, il fallait s'affilier. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je vais chercher ce dont j'ai besoin pour mes recherches. C'est-à-dire, j'ai parlé de Bourdieu, c'est vrai que je dois beaucoup, mais il y a certaines choses, je ne vais pas me retrouver là-dedans, dans une forme de théorisation, etc. Et puis, pour d'autres travaux, je me suis beaucoup servi de Michel Foucault, par exemple, aussi, qui est pour moi une référence importante, mais pas tout Foucault non plus. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et puis voilà, donc en fonction des recherches empiriques, c'est la recherche Le vrai savant, c'est ça. C'est la recherche qui doit guider la boîte à outils qu'il fabrique. Mmh. Voyez. Et alors après, évidemment, ça, c'est la recherche, les recherches précises que j'ai faites sur un certain nombre d'objets. Et puis après, il y a des processus de généralisation. Je suis intervenu dans l'épistémologie de l'histoire, dans mon livre sur la crise de l'histoire, ou sur d'autres thèmes plus généraux. Mais le fondement du métier d'historien en tant que savant, c'est ça. Oui.
Et donc, votre pratique de l'histoire, sous la socio-histoire, si on veut la nommer ainsi, vous permet quand même de penser ce qu'on pourrait appeler le rapport entre le savant et le politique. Vous disiez que vous étiez constamment interpellé par des journalistes, mais pour commenter, par exemple, des paroles de politiciens ou des enjeux politiques particuliers. Autrement dit, votre engagement, c'est celui du problème de l'engagement public, mais du savant, de l'historien professionnel. Comment la socio-histoire vous permet de solutionner en quelque sorte ce dilemme de l'engagement, mais aussi de la distanciation de l'historien face à ces enjeux politiques qui secouent l'actualité?
Oui, je dis souvent que je me suis toujours senti un peu sur le fil, comme un funambule.
Oui.
Hein. Donc, effectivement, je défends à la fois l'autonomie de la science, et puis en même temps, eh bien, cette autonomie, elle a des implications politiques. C'est-à-dire, vos travaux vous amènent à énoncer un certain nombre de vérités qui concernent notre société, eh bien, le fait que ces vérités soient ou non reprise par les politiques,
ouais,
ou les militants aussi, a des effets. Donc, c'est en cela qu'il y a un rapport compliqué aux politiques. Et puis même, le fait même de vouloir défendre la science, c'est pas scientifique, c'est politique.
Ouais.
Vous comprenez ?
Ouais.
Il y a toujours, finalement, c'est les citoyens qui ont le dernier mot. Mmh. Je dis souvent, d'ailleurs, à certains collègues qui ne se sentent pas l'obligation d'intervenir dans l'espace public pour défendre la science, par exemple.
Ouais.
Je leur dis, vous comportez comme des chercheurs de droit divin, hein, parce que vous avez réussi tel ou tel concours, hein, vous étiez bons élèves, etc. Donc, vous considérez que vous n'avez pas besoin de justifier auprès des citoyens votre travail. Mais vous êtes payé par qui ? Hein, vous êtes payé par qui ? Donc, c'est avec les impôts des citoyens. Si vous ne justifiez pas à leurs yeux l'utilité du travail que vous faites, pourquoi ils continueraient à se dire « on va payer des historiens ». Vous comprenez ? Ou des historiennes. C'est le problème. Donc, c'est aussi à ce niveau-là une forme d'engagement public dont le fondement, c'est la défense de l'autonomie de la science qui est très, très attaquée aujourd'hui. Mmh. C'est quand même une conquête de la démocratie qui est remise en cause. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des polémiques sur les islamo-gauchistes, des tas de choses comme ça, sans arrêt. Donc, il peut y avoir une remise en cause de l'autonomie de la science qui va venir aussi de l'autre côté. Des militants, vous voyez, les marxistes, par exemple, critiquaient et disaient « non, il n'y a pas de science objective », ce qui est vrai d'un certain point de vue. Il y a toujours un point de vue sur la recherche, mais ce n'est pas pareil. L'autonomie, ça, c'est une réalité qu'il faut défendre, si on croit à la démocratie, évidemment. Donc, ça, pour moi, c'est la manière que j'ai de combiner les deux, avec, évidemment, je vous dis, parfois, des gens me reprochent « oui, tu prêches pour l'autonomie, mais là, tu as signé telle pétition, par exemple ». Ben oui, je suis aussi citoyen.
Voilà.
C'est ça. C'est-à-dire, je refuse la confusion des genres. Parce que, c'est pareil, vous faites vous n'êtes pas en train de faire de l'histoire, vous faites une émission d'histoire pour populariser, finalement,
absolument,
dans le même sens que ce que je disais. Donc, il faut accepter qu'on joue plusieurs rôles dans une société. Moi, je fais aussi la casquette, parfois, de journaliste, d'animateur culturel. Mais, fondamentalement, si on respecte les gens, les citoyens, il faut clarifier les activités qu'on a. C'est en ça où je me réclame du pragmatisme, si on peut aborder les questions d'ordre philosophique. Mais voilà, moi je me considère comme un penseur pragmatiste. C'est-à-dire aussi qu'on a le droit d'avoir des activités différentes, mais il faut les clarifier et il faut respecter ce qui les différencie.
Ça fait partie d'une certaine éthique à adopter, finalement. Le temps file, on va devoir faire une pause bien rapidement, mais je propose qu'on s'y rende en musique avec Julien Clarc, qui, comme vous, Gérard Noiriel, souhaite se rendre utile à vivre et à rêver.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimèrent. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Schiste 94.3. Nous sommes en compagnie de l'historien Gérard Noiriel pour ce deuxième épisode de notre série thématique consacrée au métier d'historien. Nous discutons maintenant de la place et du rôle de l'historien dans le débat public, conversation que nous avons déjà entamée. Gérard Noiriel, vous êtes longtemps considéré comme un intellectuel spécifique. C'est dans le sens que donne Michel Foucault à cette expression. Dans le prolongement de cette conception de l'intellectuel, vous avez éventuellement soulevé l'existence d'un profil différent, celui du chercheur engagé, dans lequel vous avez plus tard avoué vous reconnaître peut-être davantage que dans l'intellectuel spécifique. D'abord, j'aimerais qu'on définisse ces deux postures et ensuite que vous nous disiez comment vous décrivez aujourd'hui votre engagement intellectuel.
Oui, alors l'expression d'intellectuel spécifique, effectivement, on la doit à Michel Foucault, qui l'avait créé, je dirais, à fin des années 60, début des années 70, contre l'intellectuel universel ou généraliste que représentait Sartre, Jean-Paul Sartre. Voilà. Et donc, Foucault disait que voilà, l'intellectuel spécifique, c'est qui met ses compétences, son savoir, au service de causes spécifiques, voilà, particulières, à égalité avec les gens qui sont des professionnels du milieu, qui ont la compétence. Donc, il s'est beaucoup investi, par exemple, sur la question des prisons. Ouais. Donc, il y avait à ce moment-là toute une série de causes importantes auxquelles il considérait que le philosophe, puisqu'il était philosophe, pouvait apporter sa contribution. Donc, c'est vrai que moi, c'est une démarche que je trouve séduisante et que je continue à pratiquer. On pourra parler peut-être du moment des mouvements des Gilets jaunes, par exemple, récemment, où on est un certain nombre à avoir essayé de jouer notre rôle d'intellectuel spécifique dans le cadre de ce mouvement. Mais si j'ai progressivement pris mes distances avec cette expression, c'est qu'elle a été appropriée aussi par des gens qui ne la définissent pas de la même manière que moi. Oui. Voilà, donc ça m'a amené à y réfléchir et à définir de manière peut-être plus précise ce que je voulais dire. Là, parce qu'il y a une autre expression que j'ai utilisée récemment pour la définir sur mon blog, puisque j'ai un blog que les gens pourront consulter pour avoir plus de détails sur ce que je raconte, c'est ce que Bourdieu appelait lui-même l'intellectuel responsable. Voilà, il y a cette notion d'intellectuel responsable. Je me dis, oui, finalement, c'est peut-être ça qui est le plus précis, parce que chercheur engagé aussi, ça peut paraître un peu vague. Chercheur responsable, ça veut dire qu'on assume ses responsabilités et qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'engagement citoyen, etc. Ouais. Donc, voilà comment... Mais bon, après, c'est des étiquettes. Voilà, on peut toujours les critiquer. Je ne suis pas un fanatique non plus des étiquettes. Il y a des gens qui peuvent, même par rapport à la socio-histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas du tout se définir comme socio-historiens, qui faisaient pourtant des recherches très proches de ce que je faisais. Donc, voilà, faut se méfier un peu aussi des catégories.
Absolument. Ça fait drôle. Je vois sur ma feuille de questions, vous avez parlé de responsabilité. Ma prochaine question concerne cette responsabilité-là. Est-ce que, à votre avis, l'historien a véritablement cette responsabilité de prendre position, ou peut-être même le devoir de prendre position dans les débats publics et de commenter l'actualité? Vous dites que certains de vos collègues avaient pris leur distance presque complète de cet univers-là d'engagement social. Est-ce que c'est un choix légitime, à votre avis? Vous avez rapidement peut-être répondu à cette question-là plus tôt, mais qu'est-ce que vous en dites?
Ben, c'est justement la notion de responsabilité, elle amène constamment à s'interroger sur ce qu'on fait. D'abord, un, ne pas surestimer son rôle. Je veux dire, quand on est enfermé dans le monde intellectuel, on surestime le rôle qu'on a dans la vie publique, par le fait. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, on est pris dans un dilemme, une sorte de contradiction, où ne plus s'occuper du tout de l'espace public parce qu'on dit tout est pourri, tout, etc., etc., ou alors intervenir constamment. Et moi, je suis constamment pris, je peux vous le dire, encore maintenant, parce que j'ai sans arrêt, évidemment, on me demande de signer des pétitions.
Ah, oui.
Donc, le principe que j'ai abordé, que je ne respecte pas toujours, malheureusement, c'est de dire je n'interviens que sur des questions que j'ai étudiées. C'est ça le sens de la responsabilité. Parce que sur cette question, étant donné que j'ai travaillé sur cette question de longues années, la valeur travail, pour moi, elle est très importante. Il est légitime que je puisse dire un mot publiquement, puisque j'ai travaillé là-dessus.
Oui.
Si on n'a pas cette valeur travail, ça veut dire, parce que je suis un intellectuel, je peux vous parler de tout. Non, on a vu en France que ça a donné, je ne voudrais pas citer des noms, mais les intellectuels sont toujours trompés, c'est quand même bien connu, quoi. Donc, donc ma ligne de conduite, c'est de dire, et ça m'amène souvent à dire non à des pétitions de gens dont je suis très proche et qui ne comprennent pas ça. Ils disent, ça y est, t'es passé à droite. Non, je vais dire, mais moi, qu'est-ce que je vais raconter là-dessus? Je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas de compétences. Donc, c'est surestimer notre rôle de citoyen. Vous voyez, ça, j'ai écrit là-dessus par rapport à des historiens comme Jacques Julliard, etc. Avec leur casquette d'historien, ils vont énoncer sans arrêt leurs préférences politiques. C'est un abus de pouvoir pour moi. En tant que citoyen, on est tous à égalité. On n'a pas de lucidité plus grande sur les questions concrètes qui se posent. Donc, il ne faut pas confondre les choses.
Mais
ce qu'on peut faire en tant que chercheur, c'est apporter des connaissances sur un sujet que les citoyens vont utiliser ou pas, etc. Mais c'est un autre registre.
Et qu'est-ce qui, dans ce cas, si vous permettez d'intervenir sur des questions seulement de votre compétence, qu'est-ce qui vous différencie du simple expert, par exemple?
Alors justement, oui, ça c'est un point sur lequel je me suis interrogé. Je différencie le savant et l'expert. Sur un point précis, c'est que l'expert ne maîtrise pas ses questionnements. Je reviens à l'histoire problème dont je parlais tout à l'heure. Le savant, il maîtrise ses questionnements. Donc, moi, j'ai toujours refusé. On m'a proposé sur l'immigration des positions d'expertise. Je crois que j'ai participé uniquement à des commissions qui visaient, parce que c'était en lien avec mes compétences, à réformer les programmes d'histoire, d'enseignement d'histoire. Hein. Mais pour le reste, j'ai toujours refusé. Donc ça, c'est l'expert. En tant que citoyen, quand je vais signer une pétition qui a un rapport avec mes engagements ou mes compétences, on peut dire que je n'ai pas posé la question politique. C'est sûr qu'il y a une limite. Mais malgré tout, si je le soutiens, c'est parce que mes recherches posées à partir des questionnements, mes propres questionnements, m'amènent à soutenir cette chose-là. À me dire que c'est juste parce que ça correspond à une démarche savante. Vous voyez?
Je comprends. Bon, à partir de là, il y a un élément intéressant dans cette suite. Il y a différents profils d'intellectuels, là. On pourrait en parler longtemps, mais dans la suite peut-être de l'intellectuel spécifique qui a donné peut-être sur le chercheur engagé ou l'intellectuel responsable, chercheur responsable, il y a une autre sorte d'intellectuel qui est l'intellectuel collectif dont vous souhaitez l'avènement. De quoi s'agit-il exactement et comment l'historien peut contribuer à la formation de cet intellectuel collectif?
Alors, je dirais pas... Oui, c'est une autre sorte, effectivement, quand on fait une liste comme ça, mais l'intellectuel spécifique ou l'intellectuel responsable, il peut être aussi intellectuel collectif.
D'accord.
On peut être les deux, puisque justement, ça coule de source même pour moi. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment un intellectuel responsable, vous savez que tout seul, vous n'allez pas réussir à changer grand-chose. Donc c'est à ce moment-là que vous vous engagez une démarche collective pour peser politiquement. Parce que tout seul, vous ne peserez pas. Et c'est dans le collectif que vous pourrez peser sur des situations, faire passer des connaissances, etc. Donc ça, c'est le problème, c'est que cet idéal d'intellectuel collectif en France, eh bien, il existe depuis Durkheim, depuis l'affaire Dreyfus, etc. Oui. Et puis, il n'a jamais fonctionné.
C'est ça.
C'est parce que les intellectuels, quelque part, c'est des individualistes.
Mm.
C'est-à-dire, c'est vrai. Et on le voit même sur soi-même, si on est lucide et fait auto-analyse.
Oui, absolument.
Quand on a travaillé longtemps sur un truc, on s'est passionné, on s'est investi, ce qu'on écrit, ça fait partie de soi-même.
Oui,
quelque
oui,
part.
Oui, oui.
Et donc, il y a ces luttes après de concurrence, qui ne sont pas forcément liées à une vanité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le sens de sa vie qui est remis en cause si vous êtes critiqué.
Intéressant.
À un certain degré, mais donc c'est ce qui rend toujours difficile les expériences que j'ai faites, moi, d'intellectuel collectif, ont toujours à choper sur ce genre de choses.
Et ça passe peut-être aussi par le langage, beaucoup. Je pense que vous accordez quand même une importance à ce langage dans la formation d'un collectif qui puisse se comprendre, parce que inévitablement, si on utilise des mots semblables, mais qu'on leur donne un sens différent, on a beau se mettre ensemble, il va se créer des guerres intestines, puis finalement, voilà. L'intellectuel collectif ne viendra jamais.
C'est ça, ça commence par le langage. C'est vrai que la question du langage, elle est tout à fait fondamentale, puisque les formes de domination passent centralement, à mon avis, par le langage, par la maîtrise du langage. Et puis, même entre nous, effectivement, on a beaucoup de mal, et puisque je suis ici au Québec, je peux vous dire que quand j'ai reçu l'objet, le programme, Histoire citoyenne, par exemple, je me suis gratté la tête pour vous dire, mais pourtant on parle la même langue, vous voyez, mais alors là, il y a des différences évidemment, historiques, etc. Mais bon, mais enfin, on m'a expliqué ce que ça voulait dire, mais spontanément, je n'aurais pas parlé d'histoire citoyenne. Donc, vous voyez comment c'est difficile de... Et ça, c'est l'expérience que j'ai tirée. C'est pour ça qu'à la fin, j'avais plus trop envie d'aller dans les colloques internationaux, où, voilà, quand j'étais à Princeton, par exemple, à l'Institute for Advanced Studies, c'était formidable. C'était, voilà, un grand institut, un grand honneur, machin, mais je me retrouvais donc avec des gens de tous les pays et on avait un séminaire commun. Et ce que je me rendais compte, on parlait tous en anglais approximatif.
Oui,
mais
ça.
Voilà, et que même, voilà, qu'on n'arrivait pas. Il aurait fallu 6 mois déjà pour se mettre d'accord sur le sens des mots. Mm-hmm. Je travaillais beaucoup sur les questions d'identité nationale, etc.
Oui.
Bon, on voyait bien que chaque pays avait ses propres traditions, ses propres. On le retrouve au niveau de l'Europe aujourd'hui. C'est une des difficultés, cette question linguistique. Donc voilà, c'est un des obstacles qu'on n'a jamais réussi à dépasser.
Et il y a quand même peut-être, vous avez soulevé le fait qu'il y avait eu des tentatives dans le passé de formation d'intellectuels collectifs. Avez-vous des exemples en tête desquels, par exemple, vous auriez participé?
Pierre Bourdieu a lancé Raison d'agir. Donc, moi, j'étais un peu au point de départ avec un collègue, éminent collègue Christophe Charles, historien, qui était très proche de Bourdieu. Et ça a lancé, voilà, mais c'était autour d'un maître à penser, c'était autour de Bourdieu. Donc ça délimitait quand même l'espace, voilà. Mais Bourdieu avait vraiment, c'était un souci qu'il avait et d'élargir au-delà des sciences sociales, avec des artistes, avec, voilà. Mais voilà, après, après c'était quand même une fin de carrière, donc ça n'a pas pu perdurer, puis il n'y a pas eu de relève, parce qu'il faut une personnalité aussi qui soit capable de fédérer autour d'elle ce genre de projet.
Et si on pense, par exemple, au comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire, est-ce que ça fait partie de ce type d'intellectuel collectif qui aurait pu peut-être se développer davantage?
Alors oui, alors après, effectivement, là, je vous parlais des intellectuels collectifs ayant une large surface publique.
Oui.
Voilà. Mais autrement, des intellectuels des petits intellectuels collectifs, on peut dire qu'il y en a beaucoup.
Il y en a quelques-uns.
Ben, la revue Genèse, pour moi, c'est un exemple, puisque on a fondé ça avec quelques collègues politistes, anthropologues, sociologues, historiens. Au début, on n'avait pas de moyens, pas d'éditeurs, rien. Et puis, on est resté soudés, on est toujours amis d'ailleurs aujourd'hui. Et cette revue a donné quelque chose d'important, qui est une nouvelle génération qui a pris la relève, etc. Donc là, on peut parler effectivement d'intellectuel collectif, mais c'est plus de chercheur, alors c'est peut-être plus le mot de collectif de recherche, vous voyez. Et puis, alors le CVUH, là, c'est un peu intermédiaire, puisque c'est un collectif qui réunit principalement des historiens, mais des historiens de différents niveaux, des historiens du secondaire, des universitaires, des archivistes, etc., autour d'un objectif qui est civique, c'est la vigilance par rapport aux utilisations de l'histoire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et donc c'était un clin d'œil au comité de vigilance des intellectuels des années 30. Enfin, bon, il y a une histoire de tout ça. Et puis, c'est un collectif qui a eu un certain impact, peut-être un peu moins maintenant, mais moi, j'ai été le dirigeant principal, enfin, le président pendant 2 ou 3 ans, puis j'ai passé le relais à d'autres ensuite. Donc, ça a été important, oui, dans la profession, en tout cas, oui. Mmh.
On peut même penser que Lorraine Cœur d'Acier en aurait formé un au départ. C'est
oui,
peut-être
voilà,
un proto
intellectuel
voilà, collectif.
Oui, c'est ça, intellectuel collectif, mais vu du point de vue ouvrier.
Oui.
Voilà,
absolument.
Parce que c'est ce qu'on appelait autrefois les intellectuels organiques, oui. Souvent, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait forcément de carrière universitaire, etc., mais qui ont un savoir, une intelligence, qui mettent au service des autres et qui se réunissent et qui forment. Ça existe au sein des syndicats. Hein. Mm-hmm. Moi, je travaille souvent avec des gens de la branche, je dirais, culturelle de la CGT, où il y a un institut d'histoire aussi de la CGT qui est largement ouvert, et c'est des formes de participation qu'on peut avoir aussi, oui.
Mm-hmm. On est déjà rendu à la conclusion. Quelques questions quand même. Il reste assez de temps. Vous êtes donc prononcé à plusieurs occasions sur le rôle que vous accordez non seulement à l'histoire, mais également à l'historien en tant que tel dans la société qui l'étudie. Par ailleurs, vous avez déjà fait le récit, vous l'avez encore fait quelque peu aujourd'hui, de votre itinéraire intellectuel. Vous avez glissé un mot là-dessus, mais... Vous sentez-vous carrément un devoir de justifier votre engagement public?
Oui, alors ça, c'est une dimension très importante qui est aussi liée au pragmatisme, je dirais, la réflexion sur les formes de justification.
Mmh.
En fait, très souvent, ce qu'on croit être des raisons sont des justifications. Et c'est valable pour tous les êtres humains. Hein. Donc, on se justifie d'exister. Hein, voilà, c'est une formule de Bourdieu aussi que j'aime beaucoup. Hein. Se justifier d'exister comme on existe, quoi. Mm. Et donc, pour nous, ça vaut aussi. Mm-hmm. Donc, il y a cette notion de justification. Alors, je vois bien qu'elle ne traverse pas tous les individus au même degré.
Ouais.
J'ai vu dans mon milieu, je le disais tout à l'heure, pour les chercheurs de droit divin, c'est-à-dire il n'y a pas cette espèce d'inquiétude que moi j'ai toujours ressentie, qui peut être liée à différents paramètres, là c'est vers la psychanalyse qu'il faut se tourner, mais qui peut s'expliquer aussi par les trajectoires qu'on a eues. Donc c'est vrai que pour moi, venant d'un milieu modeste, disons, mes deux frères, un est décédé malheureusement, mais était ouvrier, donc les réunions de famille, je peux vous dire que ça y va dans le la clasher les intellos qui foutent rien, qui sont bien payés, ou ce genre de choses. Là, la justification, vous êtes d'emblée confronté à la nécessité de la donner, surtout quand vous pensez qu'ils ont un peu raison, quoi. Que très souvent, c'est pas forcément juste ces inégalités qui peuvent exister entre... Et donc moi, ayant le sentiment d'avoir une chance extraordinaire dans ma vie, j'ai fait le métier dont je rêvais, un métier passionnant, libre, parce qu'en plus, l'école des hautes études, c'est quand même une école qui est un peu favorisée de ce point de vue-là. On n'a que 2 heures d'enseignement, c'est un séminaire pendant 6 mois de l'année, donc on a toute liberté. Bon, donc c'était vrai, je me disais, il faut que la chance que j'ai eue, qu'elle serve à quelque chose. Quoi. C'est constamment, donc c'est un peu cette culpabilité qu'on peut ressentir et qui peut nous plonger vers un certain nombre d'illusions. Mmh. Moi, ça a été un peu, si je fais le bilan un peu aujourd'hui, parce que j'ai vu beaucoup autour de moi des gens, parce que moi j'étais étudiant dans les années 70, donc il y avait encore les effets de 68, etc., qui a été très engagé, les établis, tout ce qu'on voudra. Puis après, comme ça n'a pas marché, sont devenus cyniques. Vous voyez, ça, on peut passer, voilà. Alors ça, vaut mieux être modeste au départ, ne pas s'illusionner sur les résultats qu'on peut obtenir, et puis tenir la route jusqu'au bout, plutôt que devenir cynique et d'après d'aller alimenter les choses les plus réactionnaires, comme on en a vu un certain nombre. Donc, si vous voulez, c'était pour moi, mais au début, j'avais quand même un peu une forme d'idéalisme sur la croyance dans l'utilité de la science historique, etc. J'ai vu les limites parce que, en plus, je travaille sur l'histoire de l'immigration, je veux dire, et aujourd'hui, en France, on en est exactement au même point qu'il y a 40 ans. Mmh. Les mêmes débats, les mêmes trucs, les mêmes stéréotypes, les mêmes... Et malgré tout le travail, parce que je suis pas le seul, on était beaucoup quand même, l'histoire de l'immigration, c'est devenu... Ça n'existait pas avant que je commence, mais après, c'est devenu... Le creuset français a beaucoup servi à ça, etc. C'est devenu quand même un champ légitime de la recherche historique. Et les sociologues, les anthropologues, les démographes, tout le monde, on va dans le même sens au niveau des résultats de la recherche. Mmh. Et ça ne passe pas la rampe des journalistes et du politique. Donc, alors, chez les journalistes, il faut distinguer aussi. Hein. Il y a énormément de différences. Et heureusement, on a quand même des alliés, des gens qui font un vrai boulot, etc. Mais les dominants, les chaînes d'infos en continu, tout ça, c'est eux qui matraquent à longueur de journée et qui fabriquent et qui alimentent ces stéréotypes contre lesquels, il faut bien le dire, on a été impuissants. Quoi. C'est la grande déception que j'ai dans ma vie par rapport à tout ça. Oui.
Et donc, non seulement pour justifier votre engagement public, mais donc vous avez parlé de vous beaucoup, évidemment, pour justifier, mais parler de soi comme historien, c'est une chose pour justifier son engagement, mais à vos yeux, le récit de cet engagement intellectuel qui est le vôtre, est-ce qu'il a une valeur pédagogique?
Ben, je pense que j'hésite là, est-ce que je vais me lancer dans une autobiographie ou pas. Pour l'instant, j'ai juste accordé une postface de mon livre, où je raconte quelques éléments.
Penser avec, penser contre.
Mais je l'ai fait surtout me dire, attention, le point de vue, même si je défends l'autonomie, comme je l'ai dit, attention, le point de vue que j'ai sur l'histoire, il est conditionné par ma propre histoire.
Oui, c'est ce qui est intéressant.
Voilà, tout le monde est comme ça. Donc je voulais donner aussi aux lecteurs des éléments pour mesurer et peut-être remettre en question ce que j'avais pu écrire parce que c'est ancré dans un point de vue. Mais l'autre dimension, c'est que je voudrais donner envie à des gens qui sont peut-être dans la situation dans laquelle j'étais, moi, dans mon enfance, dans mon adolescence, de se dire « ça vaut le coup d'investir dans la science ». Voilà. Parce qu'on sait que souvent, vous savez, la dimension émotionnelle, c'est ce que j'ai compris aussi sur le tas, c'est pour ça que j'ai créé une association, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça compte beaucoup pour moi dans mes engagements citoyens d'éducation populaire. Et je fais maintenant, dans toute la France, je suis sur scène, dans ce qu'on appelle des conférences théâtralisées, autour de thèmes qui sont liés à nos travaux, pas rien que les miens, mais souvent mes recherches, j'écris des petites pièces de théâtre, et qu'on présente beaucoup dans les écoles, dans les centres sociaux, etc. Et c'est une des choses qui m'occupe le plus aujourd'hui. Donc c'est un moyen de transmettre des connaissances à des publics qui ne lisent pas nos bouquins, avec l'espoir quand même de leur dire, tiens, ça vaudrait le coup que je me mette à travailler à l'école. Parce que ça a été un peu j'étais pas un cancre, mais j'étais pas un excellent élève, surtout à partir du collège, il y a la crise d'adolescence, etc. Et c'est seulement quand j'ai vu du sens, je me suis dit, que j'ai commencé à m'investir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de jeunes. Quand on leur raconte à l'école...
Moi, le premier. Je l'avoue.
Bon, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire.
Absolument.
Donc, c'est ça. Donc, ça, je me dis, si je peux transmettre ça, peut-être que sur le plan politique, la grande politique, j'aurais échoué, mais c'était cousu de fil blanc dès le départ. Mais sur le plan... des gens, et ça, c'est une des récompenses qu'on a quand on voit des gens qui vous écrivent, qui viennent vous voir en disant, vous savez, écrit, c'est dit, etc. Ça me donne confiance ou ça m'a vraiment parlé. Ça c'est les belles récompenses qu'on peut avoir. Ouais. Donc, c'est surtout là-dessus maintenant que je me suis engagé. Et puis, je continue quand même, évidemment, à faire des recherches, j'ai toujours des livres en cours, etc. Mais ça, c'est important, oui.
En tout cas, je vous encourage, à faire votre autobiographie. Je la lirai avec plaisir. On arrive déjà à la fin de l'émission. Peut-être une dernière question pour boucler la boucle. Au début de notre discussion, vous nous avez expliqué ce qu'est un historien, donc votre définition du métier d'historien. Or, qui peut se dire historien? C'est une question particulière, peut-être, parce que qu'est-ce qu'un historien? L'historien professionnel, celui qui a les diplômes, mais vous avez bien expliqué aussi qu'il y a d'autres formes d'histoire qui peuvent être pertinentes également pratiquées, même de façon amateur, mais qui peut se dire historien? Quelles personnes ont cette légitimité de se dire historien?
Alors là, ça touche à un problème, c'est que je me dis, c'est pas à moi de régenter la vie des autres. Donc, je ne vais pas jouer à l'expert. On est tendu à un piège, là. Donc, je dirais, les gens qui veulent se dire historien, qu'ils se disent historien. Moi, ça ne me gêne pas. Des gens peuvent faire leur arbre généalogique et espérer qu'ils descendent d'un noble du 18e siècle. Leur chante, ça m'est égal. Non, je juge sur les pratiques. C'est-à-dire qu'on a un projet, on le fait, on aboutit à un travail, et là, j'exerce mon esprit critique en disant, ça, c'est pas scientifique, ça, c'est du pipeau, ça, c'est du baratin, ça, vous l'avez piqué chez celui-ci ou celui-là. Vous voyez, des choses comme ça. Mais je n'irai pas qualifier des profils.
Et donc, à l'inverse, j'imagine que vous ne diriez pas non plus que certaines personnes ne devraient pas se dire historien.
C'est-à-dire, j'ai constaté dans ma vie que certains historiens universitaires, je pense qu'ils étaient faits pour faire de la politique, du journalisme, de l'administration. Ouais. Parce que très vite, la passion pour la recherche, ça, c'est souvent dans l'élite, justement. Ouais. Dans l'élite, vous voyez, de ceux qui... En France, ça passe par les grandes écoles. Enfin, oui. C'est le système. Moi, j'ai été prof à Normale Sup quand même pendant 10 ans, donc j'ai vu aussi ça de près. Et très vite, ils ont un désenchantement par rapport aux gratifications qu'offre le métier. Ouais. Déjà, c'est mal payé, il faut bien le savoir. Et puis d'autre part, vous voyez, vous êtes dans un labo comme un autre. Enfin, l'une des valeurs importantes du monde scientifique, c'est justement, on parlait du collectif, c'est-à-dire que vous êtes un chercheur au sein d'un collectif. Mm-hmm. Vous n'êtes pas au-dessus de l'autre, on est à égalité. La science, c'est ça, normalement, à la différence de la littérature, de l'art, où c'est le génie, etc. Donc, je vois un certain nombre de collègues auxquels on avait promis un avenir formidable parce qu'ils étaient brillants, toutes ces choses-là. Et ils arrivent et, ils vont être considérés comme un petit chercheur
parmi
les
d'autres.
Parmi d'autres. Donc, ils vont évoluer vers des carrières, vers l'ENA, vers la politique, vers des choses qui vont leur paraître plus gratifiantes. Un bon exemple récent, c'est celui de Pape Ndiaye, que j'ai connu comme collègue à l'école de hautes études, et qui était ministre après. Okay. Vous voyez, voilà. Donc, très vite, il a basculé vers un ministre d'éducation nationale. Aujourd'hui, il est ambassadeur.
Okay.
Parce que voilà, c'est voilà. Alors, il se dit... Parce qu'il est aussi de son père est d'origine sénégalaise, donc il y a cette question de la. Donc lui, il justifie, parce qu'il a besoin de se justifier aussi, il justifie ça en disant c'est bien qu'il y ait un noir qui soit aussi. Ce qui est vrai d'un certain point de vue, mais absolument. Par rapport à l'idéal scientifique qu'il avait au départ de sa carrière, il avait contribué à créer un champ d'études, Black Studies, on pourrait dire, en France, etc. Eh bien, c'est un peu un abandon, parce qu'on ne peut pas être à la fois ambassadeur et chercheur de fond.
Non,
incompatible. Donc, vous voyez, il y a des destins. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je ne suis pas là non plus pour dire...
Mais il y a quand même, si vous me permettez, certains individus qui, se disent historiens ou non, mais qui font quand même un mauvais usage de l'histoire. D'où l'idée de ce comité de vigilance et donc de ses efforts pour contrer ces mésusages de l'histoire auxquels il s'adonne. Oui. Comment l'historien peut...
Là, effectivement, il y a des gens, mais c'est malheureusement fréquent dans notre profession, qui ont gravi les échelons de la discipline, qui au départ ont pu faire des choses très sérieuses d'un point de vue historique, et puis qu'après, avec le vieillissement et la volonté de monter toujours, etc., bien font autre chose. Moi, je peux donner l'exemple de François Furet. François Furet, qui était président de l'école des hautes études où j'étais, et qui était plus journaliste au Nouvel Obs qu'historien. Bon, donc là, effectivement, il y a forcément, je l'ai fait d'ailleurs dans mon livre « Les intellectuels », montrer comment il y a une forme de trahison, si on veut, par rapport à la définition du métier. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, on peut le faire. Mais moi, je préfère... parce que cette notion de « il n'est pas vraiment historien », c'est aussi un truc qui peut servir à des polémiques sans fin.
Oui.
Parce que même à l'intérieur de l'institution, ça, ils vont dire « c'est pas vraiment historien ». Moi-même, j'ai subi ça.
Ouais.
Parce qu'il se trouve que dans l'éducation populaire, donc on a un des premiers projets qu'on a eu, j'ai écrit 2 livres après sur lui, c'est le clown chocolat. C'est l'histoire du clown chocolat, le premier artiste noir qui était esclave à Cuba avant, etc. C'est une histoire formidable.
Ouais.
Et donc, au début, pour promouvoir ça, dans le cadre aussi du civique, de la lutte contre le racisme, etc., j'ai été sur scène dans un spectacle qu'on a fait où il y avait un musicien, un comédien qui jouait le rôle chocolat et moi qui étais là, mais en parlant un peu comme l'historien qui présente des choses. Et
le narrateur, en quelque sorte.
Le narrateur, voilà, c'est chercher le mot. Et là, donc, Télérama, qui est la grande revue culturelle, avait fait un article en disant « Quand l'historien mouille sa chemise ». Déjà, c'était tout ramené à l'historien, qui était quand même marginal dans le projet. Dans mon institution, à l'école des hautes études, mais tout le monde ricanait, surtout mes ennemis, évidemment, en disant, il nous fait des leçons sur ce qu'est l'historien, et lui fait le clown. Parce que c'était une histoire de clown. Bon, vous voyez donc comment ça implique qu'après, les gens vont se figer dans leur identité professionnelle. Or, moi, je plaide, à l'inverse, pour qu'on soit capable de jouer plusieurs rôles, comme je l'ai dit.
Oui.
Toujours en disant quel rôle on joue. C'est-à-dire, moi, quand j'étais là, je faisais de la vulgarisation, de la popularisation d'histoire. Je ne faisais pas de la recherche historique. Donc, vous voyez, si on utilise ça en disant il n'est pas vraiment historien, etc., c'est tout le problème. C'est pour ça que je préfère juger sur le travail, les résultats, la production. Quand, justement, je parlais du Yard, je disais, ça, c'est un article de journaliste, c'est pas un article d'historien.
Ouais. Il y a
un usage de l'histoire à des fins journalistique ou politique, etc., vous voyez.
Oui, d'ailleurs, politique, on le voit régulièrement. Ces temps-ci, je pense que vous en aviez glissé un mot tout à l'heure, mais c'est quand même un problème. Quand les politiciens se mettent à parler d'histoire, ça peut être pertinent, mais dans bien des cas, c'est pour des causes, disons,
identitaires. Ah ben oui, c'est pas de la science historique au sens où quel est le problème.
Ouais.
Leur problème, c'est un problème politique. C'est pas un problème scientifique.
Voilà.
Vous comprenez? Donc, on revient toujours à cette différence-là.
Gérard Noiriel, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment un plaisir. La discussion était passionnante. C'est déjà la fin pour nous. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à une prochaine. Au revoir.